Vous écoutez Radio Grand Ciel, votre émission Histoire et Mémoire de la région drouaise. Pierre Fressonnet de la Société des Amis du Musée de la Bibliothèque et des Archives de Dreux. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons étudié dans une précédente émission la guerre franco-prussienne de 1870-71, aussi bien en France qu'à Dreux. Allons plus dans le détail en étudiant l'attitude des personnalités drouaises pendant cette guerre de 8 mois et quelques anecdotes significatives parvenues à Dreux pendant cette terrible période. Les Drouais de la guerre 1870-71. D'abord, les morts anonymes. Un monument dans le cimetière de Dreux, une sorte d'obélisque, entretient la mémoire des Drouais morts pendant les combats de cette guerre. Il est admis que plusieurs centaines de combattants venant de diverses formations, armées d'Eure et Lavre, mobiles du Calvados, francs-tireurs, ont perdu la vie dans des combats autour de Dreux. Voyons d'abord les maires de Dreux. Eugène Charles Battardon, 1818-1895, maire de Dreux depuis février 1869. Le 8 octobre 1870, il est interdit à un groupe d'éclaireurs uhlans de pénétrer dans la ville. Le 11, après l'incendie de Cherizy par l'ennemi, il décrète Dreux ville ouverte pour éviter le sort tragique de la ville voisine, Cherizy, et aussi de Châteaudun. Les Allemands se contentent de traverser Dreux sans stationner. Un excellent article d'Éric Lenu, dans le cahier 32-2014 de la Société des Amis du Musée, est consacré à la vie d'Eugène Battardon. Eugène Labiche, préfet de l'Eure-et-Loire, furieux de ce qu'il considère comme une trahison, destitue Battardon et le fait transférer à Tours devant le tribunal du gouvernement provisoire présidé par Gambetta, qui le remet très vite en liberté. Ironie de l'histoire, le 20 octobre, le préfet Labiche se porte lui-même en calèche avec un drapeau blanc au devant de l'armée prussienne pour traiter la capitulation de Chartres. Deuxième maire de cette guerre, Élie Tilleul, 1804-1893, maire de Dreux du 11 octobre 1870 au 18 avril 1871. C'est lui qui négocie au soir de la bataille du 17 novembre la reddition définitive de Dreux. Eugène Battardon est à nouveau maire du 19 avril au 22 mai 1871. Une petite anecdote que je ne peux pas ne pas vous narrer. Le 3 septembre 1870 est né Maurice Violet, c'est-à-dire le lendemain de l'abdication de l'empereur Napoléon III et la veille de la proclamation du gouvernement provisoire de la Troisième République. Maurice Violette rappelait souvent cette coïncidence qui aurait probablement influencé son avenir de député radical socialiste et maire de Dreux pendant 58 ans. Un record. Maintenant, voyons le sous-préfet Siervin. Siervin ou Siervin, je ne sais pas comment on prononce. Alfred Siervin, à ne pas confondre avec Alfred Siervin de l'affaire Elf, fut avant tout historiographe, journaliste, courageux, comme il y en avait beaucoup à l'époque. Le nombre de feuilles et journaux fondés par Siervin est impressionnant. Parmi ceux-ci, la Petite Presse, le Gaulois, le Pamphlet, l'Encensoir et le Sifflet. Citons quelques pamphlets qui lui valurent l'estime des juges serviles de la 17e chambre qui l'envoyèrent goûter le menu de la prison Sainte-Pélagie au moins 7 fois. À propos de Sainte-Pélagie, il écrivit la première histoire de cette illustre prison. Il écrivit de nombreux ouvrages comme « Revenons à l'Évangile », la première à Dupanloup, « L'homme noir », « Les infâmes de la bourse », « Les vieux polissons ». « Les vieux polissons », un ouvrage qui fut saisi et poursuivi à la demande d'un sénateur qui avait cru se reconnaître, le baron de Eckeren. Bon. Ce surprenant personnage fut libéré de prison le 4 septembre 1870, après l'abdication de l'empereur Napoléon et la proclamation de la Troisième République. Curieusement, il fut choisi par son ami Gambetta pour organiser la défense de Dreux contre les Prussiens en qualité de sous-préfet. Après le refus du maire Batardon de résister à l'invasion prussienne et à la démission collective du conseil municipal, l'éphémère sous-préfet Servenne remit également sa démission entre les mains du préfet. Après 1870, Alfred Servenne reprit sa prolifique production de livres atypiques, dont certains furent appréciés par Victor Hugo. Il mourut en 1900. En 1874, Alfred Servenne publia un livre, La défense de Dreux, en octobre 1870. Cet ouvrage avait pour but de réhabiliter le maire Eugène Batardon. Pendant cette guerre méconnue, que fut la guerre franco-prussienne de 1870, des Drouais s'illustrèrent. Tout d'abord, le témoin, Charles-Arsène de Coignard, né en 1814 à Dreux. Charles-Arsène est né à Dreux le 6 septembre 1814. Son père était un ancien chevau léger de la garde ordinaire de Louis XVI. Comme son frère aîné Raymond, Arsène passa par l'école militaire de Saint-Cyr, chef d'escadron. Il participa en 1859 à la campagne d'Italie, aux batailles de Solferino et de Magenta. En 1870, malade, ne pouvant plus monter à cheval et ayant pris sa retraite, il revint dans la maison familiale à Dreux, actuellement rue de Châteaudun, où est l'agglomération. Quand débuta la guerre franco-prussienne, le maire Batardon le désigna comme commandant de la garde nationale sédentaire. À la tête de 800 volontaires, âgés et armés seulement de 300 fusils, il ne put s'opposer aux Prussiens sans risquer de faire brûler la ville pour fait de résistance. Dreux fut déclarée ville ouverte et les Prussiens entrèrent dans la ville le 17 novembre 1870. Il envoya pendant la durée de la guerre des lettres détaillées à son frère à Dijon et avec sa famille habitant Trouville, en zone non occupée par les Allemands. Ces lettres, accompagnées d'annexes, furent réunies en 1872 en un ouvrage « La guerre 1870-1871 à Dreux ». Ce livre, que l'on peut consulter à la médiathèque, est un témoignage précieux et unique pour cette période terrible à Dreux. Son frère, Charles Raymond, est né à Dreux le 10 mars 1806. Lieutenant-colonel d'infanterie, spécialiste de topographie, il participa aux travaux de la carte de France. Il publia de nombreux articles dans les journaux militaires sur les configurations des champs de bataille et des régions géographiques, et aussi sur le transport par train, et c'était nouveau, des troupes et des armements. Historien et archéologue, ses recherches sur la position d'Alésia firent autorité. Il publia un ouvrage sur la bataille de Dreux de 1562. Retiré à Dijon, où il mourut en 1880, il fut membre de la commission des antiquités de la Côte d'Or. Comme son frère à Dreux, il écrivit une histoire de la guerre 1870-71 à Dijon. Voyons maintenant ce que l'on pourrait appeler le héros. Henri de Beaurepaire de Louvagny, né en 1830 près de Caen, à Louvagny, d'accord. Le 18 octobre 1870, 9 jours après l'incendie de Chorizy, le lieutenant-colonel de Beaurepaire, commandant les mobiles du Calvados, désireux de surveiller les troupes ennemies signalées à Marolles, grimpa en haut de la chapelle royale. Sur le toit, il glissa, traversa la verrière du dôme et se tua à 40 ans en tombant sur le carrelage de la chapelle. D'ailleurs, on ne sait pas très bien si c'est à l'intérieur ou c'est à l'extérieur qu'il est tombé. Mais enfin, peu importe, il est mort. Un mois après, les Allemands entraient définitivement dans la ville de Dreux. Une rue drouaise porte le nom du commandant Beaurepaire. Un monument à la mémoire des mobiles du Calvados, morts pour la France en 1870, avait été érigé à Caen. Ce monument de pierre comportait 4 bas-reliefs de bronze. L'un d'eux représentait Henri de Beaurepaire de Louvagny à cheval, donnant des ordres pour la défense de Dreux. Les plaques de bronze ont disparu au cours des bombardements de 1944. Enfin, voyons, disons, les deux extrêmes. Le général d'Empire et le communard. Ildefonse Favre, rien que le prénom. Le général Ildefonse Favre, ou Favé, je ne sais pas. Le général donc Ildefonse Favé est né le 12 février 1812 à Dreux. Comme les autres généraux, Drouet, De Billy, Sénarmont, De Gros, c'est un artilleur. Mais Favé est surtout un grand théoricien connu par la publication de nombreux ouvrages sur l'artillerie, dont un co-signé avec le futur Napoléon III. Ancien élève de l'école polytechnique, il y devint professeur, puis le commanda en 1866. Chef du cabinet militaire de Napoléon III, pendant la campagne d'Italie, il travailla ensuite sur l'artillerie à canon rayé et créa les premières mitrailleuses. Colonel en 1859, général de brigade en 1865. Quand éclata la guerre de 1870, le général Favic, replié sur Paris, commanda l'artillerie d'une partie des forts défendant la capitale. Il fut blessé pendant la bataille de Champigny. Il passa au cadre de réserve en 1874 et fut promu grand officier de la Légion d'honneur. Il professa l'art militaire à Polytechnique de 1874 à 1882. En 1876, il fut élu à l'Académie des sciences. Le général Favé mourut à Paris le 14 mars 1894. Alors, voyons maintenant un autre personnage, un peu, comment je pourrais dire, sentant le soufre, Charles de l'Écluse. Louis-Charles de l'Écluse est né à Dreux le 2 octobre 1809. Son père, commissaire de police sous le Premier Empire, mais ancien volontaire de 1792, lui inculqua dès le plus jeune âge l'amour de la République. Après des études à Paris, de l'Écluse revint à Dreux pour travailler comme clerc d'avoué. Suite à la destitution du commissaire de police, la famille quitta définitivement Dreux en 1832 pour Paris. De l'Écluse participa à la Révolution de 1830, milita dans les sociétés secrètes républicaines et connut bientôt la prison. Réfugié en Belgique, il devint journaliste politique, en créant le journal de Charleroi, puis à Valenciennes, La Partiale du Nord. La Deuxième République, issue de la Révolution de 1848, le nomma commissaire du gouvernement, mais sa rigueur politique lui valut encore prison et exil. Opposé à Napoléon III, il est envoyé au bagne de Cayenne, où, prisonnier privilégié, il devint précepteur du fils du gouverneur. Revenu en France après l'amnistie de 1859, il fonda le journal Le Réveil. Après la chute de l'Empire, la République proclamée, Delescluze est élu maire du 19e arrondissement de Paris, puis député. Engagé à contre-cœur dans le gouvernement insurrectionnel de la Commune de Paris en mars 1871, Delescluze combattit jusqu'au bout pour défendre ses idées. Nommé délégué à la guerre, il fit le sacrifice de sa vie en se faisant tuer volontairement sur la barricade du boulevard Voltaire le 25 mai 1871. Son corps fut jeté dans une fosse commune. Ses amis plantèrent à l'emplacement de son cadavre un acacia. Bien que sa mort fût de notoriété publique, il fut condamné à mort par contumace en 1874. Gambetta s'écria alors « Voilà donc un homme qui, même mort, fait encore peur ». En 1883, son corps retrouvé grâce à l'acacia rejoindra au Père Lachaise, non loin du mur des Fédérés, le seul amour de sa vie, sa sœur Louise Azemia. Les fusils chassepot des Versaillais firent parmi la population ouvrière de Paris plus de victimes pendant la semaine sanglante de mai 1871 que la guillotine coupa de têtes nobles pendant la terreur de 1793. La mémoire collective est souvent sélective. Marcel de Sales, fondateur du musée qui portait son nom, a consacré à Delescluze une remarquable thèse que l'on peut lire à la médiathèque, un des rares ouvrages consacrés à ce révolutionnaire Drouet. Ces deux natifs de Dreux n'étaient pas très aimés de leurs contemporains. L'un, le général Favet, pour avoir été trop près du régime impérial, aide-de-camp de Napoléon III. L'autre, Charles Delescluze, pour sentir le souffle de révolutionnaire de cette période détestée par la Troisième République, que fut la Commune, triste épilogue de la guerre de 1870.
Le temps des cerises et guerre signale et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en penserez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour.
Vous venez d'écouter Le temps des cerises, la chanson emblématique de cette époque. On ne croirait pas, mais c'était pour l'époque une chanson révolutionnaire, particulière pour la commune. Mon arrière-grand-père, qui avait connu cette période, d'après ma mère, chantait sans arrêt ce chant du temps des cerises. Voyons maintenant des anecdotes drouaises de la guerre de 1870. La panique des cinq chênes. Le 24 octobre 1870, en pleine nuit, au lieu dit les cinq chênes, entre les Yoblés et Chambléan, près de la route de Châteauneuf, une fusillade entre mobiles et francs-tireurs, se prenant les uns les autres pour des Prussiens, fit 12 morts et une soixantaine de blessés français. À la surprise des Allemands, cantonnés à Marville. Ce malheureux accident montre bien le manque de coordination entre les différentes troupes françaises hostiles aux Allemands. Le début de la Croix-Rouge à Dreux. Le 11 novembre, un groupement de troupes que l'on dénommait pompeusement l'armée d'Eure et Havre faisait son entrée à Dreux. Cette troupe, un peu disparate, composée d'éléments de l'armée, de mobiles et de francs-tireurs, comptait environ 10 000 hommes et 6 canons. Elles se mirent en position en une ligne de plusieurs kilomètres entre Abondant et Garnay. Une armée de 20 000 Allemands venant de Chartres, par l'heure, se heurtèrent aux Français, en particulier dans la côte de Mondroire à Luret. Mais la bataille était perdue d'avance et les Français durent reculer et, en contournant la ville, se regrouper dans l'heure où eut lieu, le lendemain à Torcey, une autre défaite française. Les soldats prussiens, encore sous l'excitation de la lutte, se montrèrent ce soir-là exigeants, violents et même brutaux. Un de leurs bataillons, descendant la rue Saint-Martin, traînait derrière lui une vingtaine d'habitants de nuisements, peut-être des otages ou des victimes désignées pour on ne sait quelle représailles. Tout était à craindre pour ces pauvres gens, qui furent enfermés pour la nuit dans l'arsenal. Mais le lendemain, leur curé, l'abbé Maury, répétant un geste de son collègue de Cherizy un mois auparavant, obtint leur délivrance. Jusqu'au matin, une grande activité allait régner à l'ambulance du pensionnat Saint-Pierre. Les voitures sanitaires amenaient sans cesse de nouveaux blessés. Sur le siège avant de l'une d'elles, une vaillante oise, Madame de Montgomery, avait pris place. Au cours d'un de ses trajets sur le champ de bataille, elle avait été arrêtée par les Prussiens et conduite à leur général. Celui-ci l'avait autorisée à continuer son œuvre à condition qu'elle relevât les Allemands comme les Français. Ce fut à Dreux le début de la Croix-Rouge. Plus exactement, le terme de Croix-Rouge n'étant créé qu'en 1876, il s'agissait alors du Comité international de secours aux militaires blessés, fondé en 1864 à Genève par Henri Dunant. Pour terminer cette émission consacrée à la douloureuse guerre de 1870, deux anecdotes beaucoup moins tragiques. Le douanier Rousseau. En 1863, Henri Rousseau, qui n'est pas encore le peintre douanier Rousseau, 1844-1910, à la suite d'Alarça, pour échapper à la prison, s'engage dans l'armée pour 7 ans au 51e régiment d'infanterie cantonné à Dreux. Rousseau n'hésitera pas à mentir pour constituer sa légende relayée par Apollinaire. Sa participation à l'expédition française au Mexique et une intervention éclatante dans la défense de Dreux, mais tout cela est faux. Il n'ira jamais au Mexique et sera démobilisé en 1870 au titre de soutien de veuve. En novembre 2007, à la salle des ventes Dreux, un tableau du douanier Rousseau, paysage avec scène de guerre de 1877, est adjugé 141 000 euros. Le tableau, qui n'a rien à voir avec Dreux, relate cependant un fait survenu durant l'hiver 1870-1871, aussi rigoureux que meurtrier. Une image très connue de la guerre de 1870 est celle de Léon Gambetta quittant Paris en ballon. Pour contourner l'armée allemande qui faisait le siège de Paris et pour reconstituer une armée française dite armée de la Loire. En 136 jours du siège de Paris, septembre 70 à février 71, 67 ballons montés s'envolèrent de Paris vers la province non occupée par l'armée prussienne. N'étant pas dirigeable, chacun de ces ballons connut un destin différent. Trois ballons explosèrent avant le vol. Deux ballons s'abîmèrent en mer, dans le bassin d'Arcachon et en Manche, près de Plymouth, entraînant dans la mort leur arrestier. Cinq ballons furent interceptés par les Prussiens. Deux malheureux atterrirent directement en Allemagne. Un ballon vola jusqu'en Norvège, trois en Hollande et deux en Belgique. Dans la cinquantaine de ballons ayant réussi leur mission, trois terminèrent leur vol en Eure-et-Loir, dont un à Dreux. Le ballon céleste atterrit à Dreux le 30 septembre 1870. Le cinquième ballon, le céleste, s'envola de l'usine à gaz de Vaugirard le 30 septembre à 9h30. À son bord, Gaston Tissentier, un aérostier confirmé. Il n'est pas rassuré. Le céleste est un vieux ballon troué de partout et rafistolé en catastrophe. Le voyage est mouvementé. Au-dessus des troupes occupantes à Versailles et à Houdan, Tissentier jette des milliers de tracts en allemand, incitant les soldats d'Outre-Rhin à faire comme les Français, se débarrasser de leur roi et empereur et de faire la paix. Précisons que cette armée occupante était constituée de plusieurs États allemands, Bavière, Hesse, Thuringe, Bade-Württemberg, etc., une coalition allemande sous le commandement du royaume de Prusse. Vers midi, le ballon atterrit à Dreux, encore en zone libre. Les Drouais accueillent Tissandier en héros. La poste de Dreux tamponne quelques 30 000 lettres venant de Paris assiégées, destinées à la province et à l'étranger. Gaston Tissandier rejoignit en train le gouvernement réfugié à Tours. Les trois pigeons qu'il avait emmenés avec lui essayeront de rejoindre Paris avec des messages micro-filmés attachés à leurs pattes. Gaston Tissandier et son frère, Albert, tenteront sans succès de retourner en ballon à Paris. Aucun ballon, aucun pigeon ne put revenir à Paris. En 1885, les frères Tissandier inventèrent un moyen de rendre les ballons enfin dirigeables. Au sortir de la guerre de 1870, préoccupé par les lacunes françaises de l'information scientifique, Gaston Tissandier deviendra éditeur de revues de vulgarisation, en particulier La Nature. Des rues drouaises se souviennent des héros de la guerre de 1870, en portant les noms de Gaston Tissandier, Eugène Batardon, Charles de Lécluse et même celui du préfet de Chartres, Émile Labiche. Le général Favet dut attendre un siècle, vers 1880, pour avoir une rue. Étant trop près de l'empereur Napoléon III, il n'était pas en grâce auprès des maires et édiles troués du début du XXe siècle. Mais il n'y a pas de rue Charles de Coignard, celui qui, par son livre « La guerre à Dreux 1870-71 », fut le témoin le plus important de cette période tragique. Nous pourrions aussi témoigner des souffrances de la population drouaise, quand des milliers de soldats germaniques campaient à Dreux avec le lot des actions communes à toute occupation de troupes étrangères. Mon arrière-grand-mère, qui avait 10 ans à l'époque, se confiait vers 1925 à ma mère de l'effroi qu'elle avait eu en voyant les Uhlans traverser son village de Prémont au-dessus de Wehr et aussi de l'immense fumée venant de l'incendie de Cherisy. Le souvenir de cette guerre fut douloureux pendant plus de 40 ans. Le désir de vengeance et surtout celui de récupérer l'Alsace et la Lorraine furent entretenus jusqu'à la guerre 1914-1918. Les derniers combattants de la guerre de 1870 ont disparu autour de 1950. Ils avaient donc vécu trois guerres meurtrières entre Français et Allemands. Votre émission Histoire et mémoire de la région d'Ouest se termine. Pierre Fressonnet de l'Association des Amis du Musée de la Bibliothèque et des Archives de Dreux vous remercie de votre écoute.